Descubrimos para le deuxième fondement sur lequel repose la réponse à ces questionnements. À la question posée par Mouaz, c'est l'accomplissement de la prière. Et la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. La prière, c'est un grand acte d'adoration qui a des particularités qui attestent de la place de cet acte d'adoration auprès d'Allah. Parmi les particularités de cet acte d'adoration, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu directement d'Allah sans intermédiaire. Alors que tous les autres actes d'adoration ont été, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a reçus via l'ange Gabriel. Sauf la prière, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu révéler la prière, prescrit la prière à cette communauté, il a élevé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au ciel et l'a fait atteindre un degré qu'aucune créature n'avait atteint. فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى lorsqu'il fut à ce degré ou un peu en dessous, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala appelé قاب قوسين. Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla ce qu'il lui révéla, la prière. Et tellement Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte d'adoration qu'au départ il l'avait prescrit 50 fois par jour. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son retour rencontra Moussa alayhi salam, vous savez, Moussa alayhi salam avait une particularité. Il avait passé beaucoup de temps avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, faisaient partie du peuple élu et font partie des pires créatures. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient partie? Pourquoi est-ce qu'ils étaient le peuple élu? Parce qu'ils s'étaient cramponnés à la révélation. C'est pour ça qu'ils étaient le peuple élu. Et quand لما نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ils sont devenus les pires créatures, parce que quand on se détourne de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient une pire créature. أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont mépris من أهل الكتاب, parmi les gens du livre, ça veut dire que c'est ceux qui ont mépris. Quant à ceux qui ont cru parmi les gens du livre, ils auront la récompense deux fois. Allah leur récompense deux fois pour avoir cru au messager d'avant et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui me croient au livre, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa venue, prophète qui a été envoyé à l'humanité toute entière, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils seront en enfer et qu'ils sont les pires créatures. Saïd, Moussa avait vécu avec ces personnes et pendant longtemps. C'est pour ça qu'il maîtrisait les hommes. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam avec Banu Israël. Ce sont des histoires qui dépassent l'entendement. Allah choisit pour eux, le Créateur choisit pour eux une nourriture, il décide d'abandonner cette nourriture pour une autre. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de dire une parole, ils disent une autre. Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur eux des versets afin qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière. Ils choisissent de croire aux versets qui s'accordent avec leur passion et d'essayer de tourner les versets qui ne s'accordent pas avec leur passion. Donc, Moussa alayhi salam connaissait l'homme. Quand le prophète l'a rencontré au retour, avec 50 prières, il a dit que pardon, retourne voir le prophète, retourne voir Allah. Et prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous allège ses prières. Parce que je connais les hommes. Ils ne pourront pas accomplir 50 prières. Moi, qu'est-ce que je connais les hommes. Alors que dans la prière, c'est pour leur propre bien. Le prophète Mustafa est revenu. Et il a fait ce va-et-vient entre Allah et Moussa alayhi salam jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait réduit la prière à 5 prières. Et il a dit que ces prières sont au nombre de 5 à accomplir quotidiennement et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elles représentent 50 prières. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre cela? Parce que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé certaines prières. Fawilun bil musalli. Malheur à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahoun. Tout en négligeant leur prière. Qui ne prie pas comme il se doit. Parce qu'en réalité, quand tu n'effectues pas une seule prière comme il se doit auprès d'Allah, c'est au moins 10 prières que tu n'as pas effectué comme il se doit. Et c'est dangereux. Et c'est un acte d'adoration qu'Allah aime. Regardez le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour qu'on comprenne la place de cet acte d'adoration. Et regardez les conséquences de cet acte d'adoration quand on l'accomplit tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سيرت لا بريير مي انتر لوم اي لي تيرفيتود اي لي غران بيشي اون باريير مي است كو نو ريسانتون لا بريزونس دي سيت باريير انتر نو اي لي تيرفيتود اي لي غران بيشي لا ريبونس اي نو Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore effectué la prière comme il se doit. Méditez que dans les textes, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Iqamatu Salah. Iqamatu Salah, c'est accomplir la prière comme il se doit. C'est accomplir la prière comme il se doit. Donc nous avons l'obligation, pas de prier, mais d'accomplir la prière comme il se doit. C'est pour ça que nous devons d'apprendre la prière. Dans un hadith authentique, quelqu'un est entré dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là salut. Ensuite, il est allé prier. Ensuite, il est revenu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète l'a dit, retourne prier car tu n'as pas prié. Wallah, c'est un hadith qui devrait faire peur. Parce que dans ce hadith, le prophète, dans ce hadith, il y a deux expressions qui veulent en réalité dire la même chose qui revient, mais pour traduire deux choses différentes. On dit que passant là, ثم سلم على رسول الله فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. On dit qu'il a prié. Il est venu voir le prophète, mais le prophète l'a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Dans le même hadith, il a dit qu'il a prié. Dans le même hadith, il a dit qu'il n'a pas prié. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on peut adorer Allah, on peut prier pendant 60 ans sans avoir prié une seule fois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a été clair. Retourne prier. Quand tu n'as pas prié, pourtant il a fait des mouvements. Il a fait des takbir, il a fait des sujouds. Parce que la prière qu'il a accomplie n'est pas celle, la prière qu'il a effectuée n'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. ne respecte pas les règles de la prière prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Les bases sur lesquelles cette prière devrait être reposée. Devrait reposer. D'où l'importance de l'apprentissage de la prière, chers frères. On doit apprendre à prier. Parce qu'on ne peut accomplir la prière que lorsqu'on aura appris à prier. C'est quoi la preuve? C'est que dans le hadith, lorsque le prophète a renvoyé le compagnon pour la troisième fois, vous savez ce qu'il a dit au prophète? Quand il est revenu pour la troisième fois, le prophète l'a encore dit, retourne prier quand tu n'as pas prié. Il a dit, Ya Rasulallah, la uhsinu ghayraha fa'allimni. Oh, noble prophète, je ne connais pas une prière autre que celle que j'ai effectuée. Enseigne-moi. Donc, pour accomplir la prière prescrite par Allah, enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit apprendre. C'est pour ça qu'il a compris, il est revenu, il a dit au prophète, enseigne-moi. Donc, on doit apprendre à prier. À effectuer la prière, comprendre les secrets, non, que cacher cet acte d'adoration. On doit découvrir ces secrets, les bienfaits de cet acte d'adoration. Il y a une fois, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous n'avons pas compris l'adoration à la lumière des textes du Coran, parce que nous ne méditons pas sur les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends juste un exemple parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Est-ce que vous savez que celui qui a compris ce que c'est que la prière et qui effectue la prière comme il se doit ne peut pas tomber dans la jalousie? Juste un exemple. Ne peut pas tomber dans la jalousie. Dites-moi comment. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'ablution une condition parmi les conditions de la prière. Or, l'ablution, c'est se purifier des impuretés. Écoutez bien, ce n'est pas se purifier de la saleté. C'est pour ça qu'on peut prier étant sale. Mais c'est se purifier des impuretés. Or, l'ablution que nous faisons là, quand on lave les mains, c'est pour que si jamais il y a des impuretés sur la main, qu'on nettoie celle. D'impurité, ce n'est pas seulement pour laver la saleté. Parce que quand on est maçon, on ne peut pas attendre que la main soit propre pour aller prier. Mais on doit laver la main parce que s'il y a une impurité, ça va partir, même si la saleté reste. Donc le but de la mission, c'est quoi? C'est purifier le corps. Entre la purification du corps et la purification du cœur, quelle est plus importante? Quelle est la purification la plus importante? C'est la purification du cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois pour attirer notre intention sur l'importance des choses plus importantes, nous recommande et rend obligatoire les choses moins importantes. Sur la purification du corps, qui est moins importante? Qui est moins important que la purification du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'être une condition parmi les conditions de la prière, qu'en est-il de la purification du cœur. C'est comme ça qu'on devrait comprendre la mission. Il y a qui quand tu es en train de laver les mains, parce que tu veux enlever l'impureté du cœur, pose-toi la question de savoir si tu as déjà purifié ton cœur des impuretés du cœur. Il y a qui quand une impureté touche ton habit, tu dois purifier ton habit. Comment est-ce que tu purifies l'habit et portes un corps qui habite un cœur plein d'impureté, du shirk, des maladies du cœur? Quelqu'un qui fait les ablutions sans comprendre cette réalité ne pourra pas bénéficier des mérites de la prière comme il se doit. Parce que lui-même n'a pas accompli la prière comme il se doit. Parce qu'il n'a pas compris les actes d'adoration dans sa profondeur. Yahi, quand tu fais les ablutions, pense à purifier ton cœur. Parce que si tu purifies ton corps, c'est avec le cœur que porte ce corps que tu te tiendras devant Allah. Ça veut dire que ce cœur aussi a besoin d'être purifié. Yahri, après l'accouplement, on prend le bain de Al-Janaba pour se purifier. Mais on ne comprend pas l'importance de la purification du cœur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. Est-ce qu'il n'est pas établi qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il se purifie, tout le reste du corps le suivra dans la pureté, dans la purification, dans la pureté. N'est-ce pas le cœur? Alors si Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de nous purifier, avant de prier, on doit penser à la purification du cœur. Quand on prie, on entre dans la prière par quoi? Hein? Takbir et l'ihram. Le takbir qui nous a interdit tout ce qui ne fait pas partie de la prière. Mais est-ce qu'on a réellement compris pourquoi c'est par ça qu'on entre dans la prière? Quand on se place en direction de la Qibla, lève les mains et dit Allahu Akbar. Allah est grand. Ya ikhwa, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ces bamons. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tous les soucis qui peuvent nous distraire dans la prière. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons avoir et qui peuvent nous empêcher de nous concentrer dans notre prière. Quand on a compris ce que c'est que ce takbir dans sa profondeur, ce n'est que par là qu'on sera concentré dans la prière. Mais combien de musulmans ont appris la prière et l'ont compris comme ça? On comprit que toutes ces expressions que nous utilisons dans la prière constituent des enseignements et qui ont des implications. Que ça doit refléter dans notre acte d'adoration. La vérité, c'est que même parfois, quand Dieu Allah, on n'est même pas concentré dans le takbir lui-même. On dit Allahu Akbar en pensant à tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne qui commence la prière de cette façon pourra-t-elle être concentrée dans sa prière? Donc nous devons apprendre à prier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des croyants qui prient comme il se doit, avec quiétude et humilité. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum na'am alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes ont réussi les croyants qui sont humbles dans leur prière, qui accomplissent leur prière comme il se doit. Et quand on prie, sans tenir compte des heures de prière auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les prières, comment est-ce qu'on peut vouloir bénéficier des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui prient? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en exposant dans la réalité ce que c'est que la prière, ce qu'elle représente dans la vie du croyant, il a interrogé les compagnons en disant أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِبَابِ أَحَدِكُمْ نَهَرًا يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَجِهِ شَيْءٍ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَجِهِ شَيْءٍ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. هَذِهِ هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يَا إِخْوَةَ. لَكِنْ إِذَا أُدِّيَتْ عَلَى وَجْهِهَا كما أمرها الله سبحانه وتعالى وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم Le prophète vous exposait la réalité de ce que représente la prière dans la vie du croyant dit. Voyez-vous s'il y avait devant la demeure de chacun d'entre vous une rivière et qu'il se baignait dans cette rivière au moins 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur cet être une seule impureté? Ils ont dit non. Ils ont dit, il a dit Fadar et Kamatar Salawat, c'est ainsi, c'est comme ça les saintes prières. Mais c'est comme ça les saintes prières pour qui? Pour celui qui accomplit les saintes prières comme il se doit. Et celui qui l'accomplit comme il se doit, c'est celui qui l'accomplit comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait accompli. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu. كما رأيتموني أصلي هذه هي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى priez comme vous m'avez vu prier. Et Allah سبحانه وتعالى aime de son serviteur que lorsqu'il pose un acte d'adoration qu'il recherche la perfection dans cet acte d'adoration. Donc comme le prophète a demandé qu'on prie comme lui, même si on sait qu'on ne peut pas atteindre le degré de perfection du prophète dans son adoration, on doit rechercher cette perfection. On doit tout faire pour atteindre cette perfection, même si on est, même si on finit par ne pas l'atteindre. Sur cette prière-là, c'est quand on aura prié comme ça que on va éteindre la diffamation dans nos communautés, la calomnie, le colportage, la consommation des biens illicites, les turpitudes. Parce que cette prière viendra mettre entre nous et cette turpitude et ce grand péché et ce grand péché une barrière. Certes, la prière met entre l'homme et le péché et les turpitudes une barrière. Mais la prière qui a cette, qui produit cette conséquence, c'est celle qu'Allah a légiféré, qui est celle qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous devons d'apprendre la prière et c'est le résumé de ce qu'on puisse dire sur la prière. Parce que s'il faut parler de la prière comme il se doit, il faudra organiser tout un autre séminaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui comprennent ce qu'ils se doivent de faire à travers les indications. Parce que si on a réellement compris, ça veut dire qu'on doit apprendre la prière et c'est tout ce que j'ai voulu qu'on comprenne. Si on a vraiment compris, non, ce qu'on a dit par rapport à la prière ce soir, c'est que nous avons l'obligation d'apprendre ce que c'est que la prière. Parce que ce n'est que lorsqu'on aura appris la prière qu'on pourra l'accomplir tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. Tu dois t'acquitter de la zakat. Pour celui qui remplit les conditions de la zakat. Et sachez que la zakat est une purification. C'est ce qu'indique ce mot. C'est pour ça que, à cause de l'ignorance de certaines personnes, lorsqu'ils donnent la zakat, ils sortent le zakat, ils pensent qu'à travers cet acte, ils sont plus bienfaisants envers les pauvres que ne l'est les pauvres envers eux, alors qu'en réalité c'est le contraire. Parce que cet argent, ce part de bien qu'ils sortent pour donner aux pauvres, cela leur permet de purifier leur bien. Ça veut dire qu'au fond qui bénéficie, c'est lui, c'est le riche. Ce que le pauvre bénéficie, c'est la nourriture qu'il mange avec. C'est le vêtement qu'il achète avec. Mais lui, ça ne purifie pas ses biens. Ça ne purifie pas son âme. Alors que c'est lui qui le sert, ça lui permet de purifier ses biens et même son âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha » Vous qui avez cru, ne rendez pas vain vos sadaqat, vos aumônes. Et vous savez que la zakat est une aumône. Et c'est l'aumône obligatoire. Ne rendez pas vos aumônes vaines par ce qu'on appelle al-manni. Al-manni, c'est le fait de voir, de considérer qu'on a fait le bien à quelqu'un et de lui rappeler cela. Comme le faisaient certains premiers musulmans qui n'avaient pas encore compris la profondeur du message de l'islam. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان dit au noble prophète à ceux qui se vantent pour s'être soumis à l'islam pour avoir embrassé l'islam ils se vantaient auprès du prophète déjà nous avons suivi comme s'ils avaient fait un bien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on profite, ce n'est pas ce que le prophète profite de nous. Quand on le suit. Donc en réalité, on ne devrait pas se vanter au prophète pour l'avoir suivi. Mais on devrait plutôt remercier Allah, se montrer reconnaissant envers Allah pour nous avoir guidés vers la foi. C'est comme ça que devrait se comporter celui qui sort la zakat. S'il a compris ce que c'est que la zakat, il devrait savoir qu'en réalité, l'existence des pauvres est un bienfait d'Allah pour lui. Parce que ça lui permet de purifier ses biens. Et s'il comprend que c'est une purification, est-ce qu'il peut s'en passer de s'acquitter de la zakat obligatoire? Non. Parce que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « L'an tazou la qadam azim yom al-qiyama hatta yus'ala an arba al-umrihi fima abna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa » Personne ne bougera à sa statue le jour de la résurrection. De son statut, le jour de la... Ou alors de sa station le jour de la résurrection. Jusqu'à ce qu'il soit interrogé par rapport à quatre choses. Parmi ces quatre choses, il sera interrogé par rapport à ce bien. Où est-ce qu'il, comment est-ce qu'il les a acquis? Et comment est-ce qu'il les a dépensés? Et il ne fait aucun doute que peine. C'est lui qui ne purifiera pas ce bien, ne pourra pas s'en sortir. Et s'il est établi qu'on rencontrera Allah, alors, on doit vérifier, c'est bien avant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la zakat est un pilier de l'islam et une obligation. Et nous devons de nous acquitter de la zakat. Et ici, je vais rappeler quelque chose d'important relative à la zakat qui est souvent négligée. C'est que pour parler de la zakat, il faut que deux conditions soient réunies au préalable. La première condition, c'est qu'on appelle il faut que l'argent atteigne le quota. Et le quota, c'est quoi? C'est quoi le quota de la zakat? Non, le zakat, le mal, bien sûr, on fait addition à la zakat de l'argent, de la monnaie. C'est quoi le quota de la zakat de la monnaie? Barakallahu fikum. C'est 85 grammes d'or ou, et c'est cette décision, c'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Et beaucoup de gens ont négligé le deuxième. C'est pour ça que certaines personnes qui sont considérées par la zakat ne s'acquittent pas de la zakat. Parce qu'ils ne comptent le quota qu'à partir du quota de l'or. Alors que le quota de l'argent aussi est un quota. Et lorsque la zakat, et lorsque les biens d'une personne ont atteint l'un de ces deux quotas, la personne doit s'acquitter de la zakat. Et si ça atteint les deux quotas, le quota qu'il doit considérer, c'est le quota le plus va, parce que c'est cela qui profite aux besogneux. Et la zakat est un droit parmi les droits du besogneux. Quand on a compté le quota de la zakat récemment, en argent, ça donnait quelque chose comme 170 000. Alors que quand on compte le quota en or, ça donne 1 million et poussière. Ou alors plus d'un million. Non? Si on ne prend pas en considération le deuxième quota, il se peut qu'on soit concerné par la zakat et qu'on ne s'acquitte pas de la zakat. Alors qu'en réalité, au fond, on est concerné par la zakat. Alors, je vais dire que c'est lui qui a 170 000. Ou alors, il faut raconter si c'est le même quota, mais ça doit être dans l'intervalle 165 000, 170 000, 180 000, en fonction de la variation des prix de l'argent. Celui qui a 170 000, ça veut dire que son argent a atteint le quota. Ça, c'est la première condition. La première condition est donc remplie. Et la deuxième condition, c'est na hawalani al-hawl. Il faut que cet argent reste pendant au moins un an. Qu'est-ce que veut dire rester pendant au moins un an? Ça veut dire qu'on ne peut rien augmenter sur cet argent. Si entre-temps quelque chose s'augmente sur cet argent, le jour où l'argent va atteindre al-hawl, c'est-à-dire un an après avoir atteint le quota, parce qu'on commence le jour où ça atteint le quota. Et si entre-temps ça descend en dessous du quota, le comptage reprend à zéro. Ça va reprendre le jour où ça va encore atteindre le quota. Prenons un exemple pratique. Si Faisal a 190 000 aujourd'hui, après avoir récité le hadith comme le cher a dit, le cher lui donne 190 000 comme récompense, ça veut dire que ses biens ont déjà atteint le quota. Il ne faut pas aller arrêter le cher, hein. Je suis seulement l'exemple, je n'ai pas dit qu'il va donner 170 000, comme tu dis déjà. Si après avoir reçu 170 000, si Faisal reçoit 170 000, ça veut dire que ses biens ont déjà atteint le quota. S'il garde ses 170 000, ça veut dire qu'à partir du moment où il a décidé d'épargner ses 170 000, il doit commencer le comptage. Mais s'il prend les 170 000, sort 10 000, pour donner la ration de la semaine. 50 000 pour rembourser une dette. Et 100 000 pour préparer la rentrée des enfants. Est-ce qu'il est concerné par la zakat? Non. Il faut que ce soit de l'argent qu'il épargne. Donc s'il décide d'épargner ces 170 000, ça veut dire que son argent a déjà atteint le quota. Et il va commencer à compter à partir du jour où il a commencé à épargner. Ou alors à partir du jour où son épargne a atteint le quota. Si entre-temps, à la fin du cours, Faisal répond encore à une question. Et papa décide de lui donner 50 000. Parce qu'il a répondu à une question. Le lendemain, du coup, ça veut dire que, est-ce qu'il va commencer à compter, il va recommencer le comptage parce que quelque chose s'est ajouté? Non, il va continuer avec l'ancien comptage. Et le jour où ça va atteindre un an, il va sortir la zakat de ce qu'il possède. Si c'est 2 millions, il va calculer la zakat des 2 millions et sortir. Même si c'est à la veille qu'il a complété. Non, les autres 100, il avait combien? Il avait 170 000 et 50 000. Ça fait combien? 220 000. Donc, si à ces 220 000, à la veille de l'atteinte du Hawu d'un an, il ajoute à ces 220 000, non, 780 000, il va sortir le lendemain, il va sortir la zakat de 1 million. Vous avez compris le contrat, il va sortir la zakat de 1 million. Et pour calculer la zakat, surtout avec la nouvelle technologie, c'est facile, il ne faut plus que les gens se laissent tromper. Parce qu'ils disaient que c'est les marabouts qui calculent la zakat. Et en même temps, comme c'était les marabouts qui calculaient la zakat, c'est aux marabouts qu'on sortait la zakat. Ça faisait donc une bonne affaire. Les gens de la sunna ne jouent pas à ce jeu parce que c'est la religion d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit la zakat et il a établi les règles de la zakat. Il a indiqué les ayants droit, ceux qui doivent recevoir cette zakat. Le marabout, l'enseignant ne peut recevoir cette zakat que s'il fait partie de ces personnes. Ce n'est pas parce qu'il est enseignant, mais c'est parce que la règle s'applique à lui. Il y a deux méthodes de calcul de la zakat, deux méthodes simples. La première méthode, c'est de diviser le montant par 40. Et le résultat qu'on obtient, c'est la zakat. Et la deuxième méthode, c'est de diviser ce montant. C'est de multiplier le montant. C'est de multiplier le montant par 0,025. Par 0,025. Et lors d'un coup, j'avais dit par 0,25. C'était une erreur et quelqu'un m'a envoyé un message pour me le rappeler. Jazakallahu khairan. Donc, voilà de manière concise ce qu'on peut dire sur la zakat en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit, nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent et comprennent ce qu'ils se doivent de faire à travers les indications. Thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa tasuma ramadan wa tasum ramadan, tu te dois de jeûner le mois béni de Ramadan. Et nous sommes au lendemain du mois béni de Ramadan. Et nous avions déjà eu à parler sur le Ramadan et nous n'allons pas nous attarder sur le Ramadan parce que nous sommes au lendemain du Ramadan, ce qui veut dire qu'en réalité, si les musulmans ont jeûné, on suppose qu'ils avaient appris ce que c'est que le jeûne avant de jeûner. Et parmi les choses qui montrent l'importance de la recherche de la science et la compréhension des actes d'adoration, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ce que c'est que le jeûne? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre? Parce que si tu n'apprends pas, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le jeûne. Beaucoup de personnes pensent que le jeûne légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prendre le régime, c'est faire le régime avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Parce qu'en réalité, non, la définition du jeûne de certaines personnes, c'est faire le régime avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Alors que ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas ça le jeûne. Ya ikhwa, le jeûne en réalité, c'est vivre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se maintenir dans cette posture jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les... Là, non, pas les jeunes, vous n'avez pas compris. Allah n'a pas prescrit le jeûne pour inscrire les gens parmi les jeunes. Il a prescrit le jeûne pour que les gens atteignent la piété. Donc c'est pour les inscrire dans le rang des dieux. Non.